des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour, aujourd'hui nous recevons Bernard Pivot. Bernard Pivot, bonjour.
Bonjour.
Alors, résumer la vie de Bernard Pivot, ben, je vais le faire en trois lignes parce que vous la connaissez tous. Disons surtout qu'il est entré dans notre paysage télévisuel voilà plus de 30 ans, en 1973, avec ouvrez les guillemets.
Oui, c'est pas 1873 quand
non,
même. Hein.
1973, avec ouvrez les guillemets, suivi d'apostrophes et de bouillons de culture. Il a fondé le magazine Lire en 75. Il est devenu le roi de la dictée en 85. Et avec ce qui devient assez vite les Dicots d'or, il a été adoubé chevalier de la francophonie dans une émission sans doute la plus originale et la plus émouvante. Enfin, moi, c'est ma préférée. Après tout, soyons personnels. Double jeu. Mmh. Il est auteur de quelques ouvrages. Il est académicien Goncourt. Et il vient enfin de publier aux éditions Plomb sa somme, le dictionnaire amoureux du vin. Alors, dictionnaire, bien sûr, dico, amoureux, il a toujours été, il a eu un brin d'amour pour beaucoup de choses, et ça a été l'un des journalistes, au fond, amoureux des gens qu'il interviewait, et, ou ami des gens qu'il interviewait. Ça a été vraiment...
Non, pas ami. Non, rarement ami. Amoureux, oui. Ami, non, rarement. J'ai très peu d'amis dans la profession.
Ah bon?
Très, très peu d'amis écrivains. Alors, j'en ai quelques-uns maintenant à l'Académie Goncourt, parce que je suis à l'Académie Goncourt. Mais je peux dire qu'avant, hormis Georges Semprin, avec qui je suis vraiment un ami intime, et Robert Sabatier, je peux pas dire que j'ai des amis. En revanche, j'ai été très amoureux, effectivement.
Alors, dans de un François sens. François Giroud?
Non, mais pas dans ce sens-là. Dans un sens
bien
humaniste,
sûr,
je dirais. Amoureux intellectuellement de beaucoup d'écrivains. Et je pense, et vous avez raison de le dire, ça s'est ressenti dans mes entretiens.
Oui. Et c'était même une des caractéristiques à une époque où l'heure était beaucoup à la raillerie, à la provocation.
Elle continue, hélas,
a repris dans la dérision maintenant. Vous avez succédé, si on peut dire, dans ce genre d'émission, à quelqu'un d'acerbe, d'ailleurs Michel Pollack, puis à quelqu'un dont on a oublié le nom, dont j'aimerais quand même qu'on rappelle le passage sur Terre et à la télévision, Marc Gilbert.
Oui, alors vous avez raison d'ailleurs de rappeler le nom de Marc Gilbert, c'était lui l'animateur d'une émission qui avait lieu du temps où il n'y avait que deux chaînes, bientôt trois, donc dans les années 70, début des années 70, sur la deuxième chaîne qui était dirigée par Pierre Sabag, et il faisait une émission littéraire excellente qui s'appelait Italique, avec un, s'en souvient un peu peut-être avec le générique de Folon.
Ah oui, bien sûr, les livres qui s'envolaient.
Très, 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 très beau générique. Et Jacqueline Baudrier, qui dirigeait la première chaîne, m'a fait venir parce qu'elle était agacée par le succès d'Italique et elle voulait qu'il y ait sur sa chaîne une émission qui soit d'une qualité au moins égale à celle de Marc Gilbert. Donc, et elle n'était pas contente des émissions mensuelles qui se relayaient chaque semaine sur sa chaîne. Et donc, elle a supprimé les quatre émissions mensuelles pour me dire, bah, faites-en une hebdomadaire. Et ça a été, ouvrez les guillemets, avant, évidemment.
Qui a eu l'idée de reprendre les signes typographiques? Finalement, au fond. Enfin, la typographie, c'est-à-dire, il y avait italique, enfin pas la typographie, mais la manière de apostrophe, les guillemets.
Oui, bah, vous savez, c'est un peu
ça
normal.
Fait de soi.
Dans la mesure où on fait une émission sur les livres, on recherche des mots qui évoquent l'imprimerie, donc ouvrez les guillemets. Moi, j'avais trouvé ouvrez les guillemets la première parce que j'aimais bien finir l'émission en disant fermez les guillemets. Bon, ça m'amusait beaucoup. Au début, ça m'amusait. Oui. Après, c'était un peu. Mais vous savez que la dernière émission, je crois que c'est de Bouillon de Culture ou de Double Jeu, qui était ma vraie dernière émission, j'ai terminé en disant
fermez les guillemets.
Cette fois,
oui,
je ferme vraiment les guillemets.
Oui. Hein,
ce qui ne veut pas dire fermer les yeux. Hein. C'est
non,
pas la
non,
même chose,
vous
hein.
avez l'œil brillant et alerte pour ceux qui nous écoutent. Alors, à votre propos, donc, alors, comme vous publiez le dictionnaire amoureux du vin, partons de là, et essayons de faire un portrait viticole, vinicole, qu'on n'a pas peut-être encore fait de vous, pour savoir si vous êtes goulayant, astringent, si vous avez de la jambe, si vous avez du corps, si vous avez une âme. Alors, à votre propre questionnaire déjà. Oui, ça a l'air de vous aspirer quelque chose, de vous demander si vous avez du corps ou de l'âme.
Ah ben, j'espère avoir les deux, hein. J'espère bien. Même avec l'âge, j'espère être resté un peu fruité.
Avec un peu de bouteille.
Ben, avec de la bouteille, ça, sûrement. Mais pourquoi pas rester un peu gouléant quand même. Oui, bien sûr.
Pourriture noble?
Non, ça alors, non. D'abord, ça, vous savez, c'est un oxymore extraordinaire, la pourriture noble. Ça, c'est formidable. J'ai repéré deux dans le vocabulaire, disons, à la fois géographique et œnologique. J'ai repéré deux oxymores ou oxymorons. C'est la pourriture noble et la champagne pouilleuse. Champagne pouilleuse, là aussi, il y a une contradiction incroyable entre ces deux termes. Et puis, alors, la pourriture noble aussi. Alors, vous me direz, s'il y avait des révolutionnaires ici sur ce plateau, ils me diraient, mais pas du tout, la pourriture noble, il n'y a
la
aucune contradiction. Donc pourriture noble, non, là, franchement, non, ça me gênerait autant pour le mot. Je ne suis pas noble et la pourriture, j'espère l'éviter.
Alors, à votre propre questionnaire, et c'est connu.
Mais vendange tardive, oui.
Ah, vendange tardive.
Vendange tardive, voilà, ah. Voilà un très joli mot, qui est réservé d'ailleurs
vous
à l'Alsace.
Vous sucrez en ce moment.
Oui, oui, mais les vendanges tardives, ça c'est très joli. Et je trouve que dans le vocabulaire de l'amour, c'est une très jolie formule. Un homme ou une femme qui tombe amoureux à la fin de ses jours, et on peut dire voilà qu'il y a à ce moment-là des vendanges tardives.
Alors, vous y allez quand même fort avec l'Alsace, puisque vous dites que le Gewürztraminer ou le Riesling à lui tout seul mérite qu'on ait fait de guerre.
Je ne dis pas tout à fait ça. Je dis que l'Alsace, on a bien fait quand même de faire en sorte de la conserver dans le patrimoine français, parce que non seulement il y a des vins extraordinaires, comme vous venez de citer le Riesling, Gewürztraminer, le Sylvaner. Le vin d'Alsace dans ma famille, moi, quand j'étais enfant à Lyon, c'était le Sylvaner. On parlait pas ni du Gewürztraminer, mais le Sylvaner, qui a moins bonne réputation aujourd'hui que la quand même de très bons Sylvaner. Non, enfin, la cathédrale de Strasbourg, la bibliothèque de Célestat, enfin bref, je cite.
Oui, on a laissé les vins du Rhin aux Allemands, donc ils peuvent bien nous
Oui, qui sont d'ailleurs excellents. Hein.
Excellent. Oui. D'ailleurs, vous allez peu au-delà des frontières,
non.
Quand même.
Oui, mais non, hein? Parce que j'ai déjà fait 500 pages avec les vins français, et puis je ne connais pas bien. Je connais bien les vins de la Moselle, par exemple. Je connais beaucoup moins bien les vins du Rhin. Je connais mal les vins d'Italiens, donc. Non, mais vous savez, je suis assez franco-français, moi. Donc, je me suis tenu au vin de l'Hexagone, et en oubliant quelques-uns. Non, pas en oubliant, parce que simplement, il y a des vins que je connais mal. Par exemple, les vins corses. Je les connais pas bien, donc je n'en parle pas. Si je les connais pas, je ne parle que de ce que je connais.
Alors, pour finir avec l'Alsace, j'étais un peu intriguée. Vous me direz, vous ne pouvez pas parler de tout. Mais il y a une sorte de Gewürztraminer, si je ne m'abuse, qui est le Kefirkopf. Et vous n'en parlez pas.
Ah non, mais
alors, c'est mon préféré. Alors évidemment, moi j'étais triste, j'ai cherché Kefirkopf.
Non, mais il y a plein de crus dont je ne parle pas, parce que d'abord il y a des crus que je n'ai pas bu, mais il me semble avoir bu ça une fois, oui, effectivement. Non, je parle
Vous parliez d'oxymore, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le cancrelat. Le Kefirkopf, qui est un vin délicieux, absolument délicieux, c'est-à-dire le cancrelat.
Ah, c'est pas très beau, là.
non,
c'est pas très engageant, votre affaire.
Il est délicieux, je vous offrirai alors un jour du... Alors, vous avez dit, donc, votre propre questionnaire, vous avez répondu que vous aimeriez être réincarné, c'est connu, en Romané Conti.
Non, dans un cep. Un cep de Romané Conti, il a 80 ans devant lui quand même. C'est pas mal.
Oui, parce que à un moment donné, vous dites d'ailleurs que vous aimeriez finir sur un mur en tant que cep, comme une pièce d'art abstrait.
C'est pas que j'aimerais. J'ai chez moi un cep de la Romané Conti qui est fixé.
Vous pouvez raconter l'histoire qui est très jolie. Oui.
Mais non, mais c'est-à-dire que la dernière de Bouillon de Culture, j'avais toujours dit que je répondrais à mon propre questionnaire parce qu'il y a eu 10 ans de Bouillon de Culture. Alors, tous les journalistes me disaient oui, alors je vais vous poser les questions que vous posez à la fin de Bouillon de Culture. Je dis non, ne les posez pas, j'y répondrai à la dernière émission. Et donc j'ai répondu, et à la question quel arbre, animal ou plante aimeriez-vous être réincarné, j'ai répondu un cep de la Romané Conti. 6 mois après. J'ai été invité à Claude Vougeot par les chevaliers du Tastevin, dont je suis grand officier. Et c'est à cette occasion qu'ils m'ont accordé la dignité de grand officier. Et j'ai vu, à ma grande surprise, arriver un cep de la Romané Conti offert par monsieur Aubert de Villene, le patron du domaine, et qui était un vrai cep avec les racines. Ben, c'est-à-dire un cep qui doit avoir 80 ou 100 ans, mais qui a gardé ses racines très noueuses. Et donc, je me suis vu réincarner. Et je me suis dit, quand même, j'ai une drôle de gueule, là. Alors j'ai ça aujourd'hui dans ma cave. Je peux, si un jour je suis hanté par des idées métaphysiques, je peux descendre à la cave, pas seulement pour boire une bouteille, mais simplement pour voir ce que je serais réincarné.
Vous n'avez pas envie de changer de réincarnation maintenant, parce que vous avez le temps de changer encore.
Oui, bien sûr, mais
vous pouvez répondre à autre chose.
Oui, non, mais c'est bien.
Non, ça vous plaît.
Ben pour le moment, oui. Écoutez, tant que je parle de ce vin, il n'y a aucune raison que je change de réincarnation.
Puisqu'on est dans le Bourgogne, vous écrivez à un moment donné un Bourgogne jeune à la force d'un aveu, un Bourgogne vieux, la séduction d'une énigme. Mm-hmm. C'est ainsi que vous pourriez vous résumer, la force d'un aveu jeune La séduction d'une énigme, ce qui est assez vrai, plus vieux.
Je pense pas, non. Je crois pas que c'est pas un autoportrait, ça. D'autant plus que lorsque j'étais jeune, j'étais pas du tout dans l'aveu. J'étais plutôt au contraire dans une sorte de dissimulation craintive et malhabile. Donc, je pense pas aujourd'hui une énigme, et je pense pas être une énigme. Maintenant que j'ai 70 ans, je ne suis pas une énigme. Je suis quelqu'un, finalement, qui n'a pas beaucoup de zones obscures. On en a toujours un peu. Mais enfin, je connais des gens, et notamment des écrivains, qui ont des obscurités abyssales. Donc, là,
on peut... L'énigme, c'est pas nécessairement la zone obscure. Ah, l'énigme que vous partagez, par exemple, avec Philippe Noiret, c'est d'avoir conservé cette espèce de... Pas de truculence, mais enfin, de joie, c'était plutôt Noiret, ça, mais cette espèce de joie de vivre, cette espèce de côté gay.
Oui,
drôle.
C'est vrai. Alors ça, oui. Alors si ça, c'est une énigme, oui. Alors là, je la revendique. Oui, effectivement, je suis resté quelqu'un d'assez qui aime la vie, qui aime les plaisirs de la vie, qui n'en abuse pas. D'ailleurs, si on en abuse, je trouve qu'à ce moment-là, on en perd le goût. Et je suis quelqu'un qui continue de trouver beaucoup de charme dans la lecture, dans la compagnie des amis, des femmes, dans le plaisir d'aller à l'opéra, au cinéma, de faire un parfois encore un peu de télévision et surtout d'écrire.
Alors, maintenant que vous parlez des femmes, je rebondis sur le mot, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à ma grande surprise, à la lettre F, il n'y a que feuilles de vigne, ce qui est court jeune homme.
Oui, mais oui, c'est un peu court jeune
homme.
Oui, mais il y a l'amour et le vin, oui. Et il y a le sexe et le vin.
Donc, c'est pas la femme. La femme, il y a de la jambe, il y a des mots tellement le moelleux.
Oui, mais ça, c'est un peu ridicule.
Ah bon,
pardonnez-moi,
alors,
mais alors ça, je n'aime pas trop ces acceptions comme ça, imagées du vin, le vin qui a une. Alors, prenons par exemple le Volnay. Alors, le Volnay qui est un vin très bon, un grand Bourgogne de la côte de Beaune, dont on dit que c'est un vin féminin par rapport au Pommard, qui est un vin un peu masculin, mâle. Alors, on dit, il a de la robe, il a du genou, de la cuisse, tout ça. Franchement, ce sont des métaphores qui sont pas très évidentes. On peut les employer comme ça, ben, un jour pour se faire plaisir, mais je crois qu'il faut mieux les éviter et employer des mots qui... Je préfère des mots que nous employions au début de cet entretien, comme fruité ou gouléant, parce que là, il y a une vraie, on voit ce que ça veut dire, vous comprenez? Ou si vous voulez un vin charnu, un vin qui a du corps, un vin qui est capiteux, on voit très bien ce que ça veut dire. Un vin qui a de la robe, de la jambe,
d'ailleurs,
la cuisse.
Vous passez tout un article, je ne sais plus lequel, je crois que c'est à Rome, où vous vous insurgez justement contre les sommeliers qui vous racontent qu'il y a un goût de, qu'il y a un arôme de framboise avec un arrière-goût de champignon et je ne sais quoi, ça vous exaspère tout à fait. Il y a donc des chochottes au fond, il y a des précieuses du vin aussi, non?
Comme dans toutes les techniques, donc il y a des gens qui poussent la connaissance jusqu'à l'excès, donc et qui veulent épater leurs contemporains par une accumulation, en l'occurrence, d'arômes. Ils le font pas tous, hein. Et la plupart, je me moque en vérité d'un sommelier un jour qui m'avait quand même cassé les oreilles par des accumulations d'arômes, d'épices, de fruits, de légumes. Et j'avais l'impression qu'il revenait de faire son marché de chez Fauchon, quoi. Donc ça m'avait un peu agacé. Mais en règle générale, j'ai beaucoup d'admiration pour les sommeliers, les grands sommeliers ou les œnologues, parce qu'ils ont un palais et un nez que je ne possède pas, mais qui sont tout à fait mirifiques et qui leur permettent effectivement d'identifier des vins et d'en parler avec beaucoup de science.
Bon, nous allons nous interrompre deux minutes et revenir sur votre amour des mots, précisément à travers le vin. À tout de suite, Bernard Pivot.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
À travers ce dictionnaire amoureux du vin, parce que bien sûr qu'il est amoureux du vin, mais c'est un dictionnaire où nous revisitons les poètes, les écrivains, les peintres, et c'est ça évidemment l'originalité de ce livre. Évidemment, les mots, puisque c'est un dictionnaire, et sur le mot arôme, vous parlez aussi des accents. C'est-à-dire, vous parlez de l'accent circonflexe qui s'élève comme
oui,
une
c'est très joli, moi, arôme.
De ce rond qui est la bonde, je crois, ou qui est le.
Oui, oui, ben c'est très joli le mot arôme avec cet accent circonflexe. Effectivement, on a l'impression que c'est l'âme du vin enfin, on l'emploie pas. On emploie ça plutôt pour le cognac. Mais enfin, ce sont les senteurs du vin qui s'élèvent avec cet accent circonflexe et qui viennent chatouiller chatouiller nos narines. C'est très joli. C'est... Il y a des mots que j'aime beaucoup comme ça dans la langue française parce que leur écriture, c'est-à-dire que leur forme ressemble à leur signification.
Voilà. Alors, par exemple.
Je sais pas, par exemple, une voûte. Une voûte avec un accent circonflexe. Vous voyez, l'accent circonflexe, là, représente la voûte. Vous la voyez bien. C'est remarquable de comme.
Donc, enlever les accents serait absurde, voilà, bien sûr. Oui.
Ah ben oui,
vous n'êtes pas pour ces réformes.
Ah oui, moi je suis tout à fait contre. Oui.
D'ailleurs, vous avez publié dans une collection de Lire, je crois, plusieurs livres sur l'orthographe,
sur les
décodeurs,
sur l'orthographe, et puis avec des collaborateurs qui sont experts. Que moi, j'en suis pas un. Je suis un lecteur, mais dedans, il y a des grammairiens, des correcteurs. Et alors, il y a des mots que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime bien les astuces, les trucs pour se rappeler l'orthographe ou bien le sens des mots. Par exemple, coasser, croasser. Souvent, les dire, le corbeau il coasse, il croasse, la grenouille. Elle coasse, elle croasse, on ne sait pas. Bon, ben c'est très facile à se rappeler. Il suffit de se rappeler que la grenouille est dans l'eau, donc elle coasse, et le corbeau est dans l'air, et donc il croasse. Et voilà, c'est facile. Oui.
Ah oui.
Donc il y a des astuces comme ça qui sont très très pertinentes pour se rappeler. Et j'ai noté beaucoup de mots comme ça, ils ne viennent pas tous à l'esprit, comme ça, qui ressemblent à leur j'aime bien par exemple le mot hippopotame. Parce que vous voyez bien les P, là, vous voyez bien les pattes de l'hippopotame. C'est un mot qui est lourd, qui est un mot avec ces P, là. Hippo, il y a deux P, puis après encore un P. En réalité, il en faudrait un quatrième pour qu'il ait les quatre pattes. Vous voyez?
Ça, c'est très... Oui, c'est l'histoire de dromadaire et de chameau, vous connaissez.
Non.
La différence, lequel a deux bosses.
Ah oui, alors?
Eh ben, c'est chameau. Chameau. Parce que dromadaire, il n'y a personne qui a trois bosses.
Ah, d'accord.
Oui.
Oui. Oh,
non,
je suis moins.
Bon, c'est bon.
Moi, je préfère mon hippopotame.
J'essayais de jouer avec vous. Bon, et en effet, les mots, y compris dans la dictée, on a l'impression que vous prenez un plaisir. D'ailleurs, c'est ça le succès de votre dictée, parce que au fond, votre succès et moi, si je puis dire, de parler des livres admirablement ou de faire parler les autres admirablement, ce qui est un talent comme chacun sait, hein, ô combien. Mais c'est cette jouissance que vous prenez au moindre mot, au moindre accord, quand vous expliquez les dictées ou quand vous les dictez tout simplement. On sent que vous partagez un plaisir.
Oui, alors il y a un plaisir
presque
un peu
louche.
Non, mais oui, bien sûr, il est louche. Vous avez raison. Il est même pervers. C'est un plaisir pervers d'écrire le texte de la finale de la dictée. Ça me prend une semaine de travail. En plus de ça, j'ai accumulé des documentations durant toutes mes lectures de l'année, et je prends des mots un peu bizarres et que je mets dans un tiroir. Enfin, que je mettais parce que maintenant elle n'existe plus la dictée. Et à la fin, je reprenais tout ça. Puis, selon le thème de la dictée, j'employais deux ou trois ou quatre de ces mots ou de ces expressions que j'avais repérées durant l'année. Et c'est évidemment une grande jouissance d'un seul coup de se trouver devant des mots, pas obligatoirement d'ailleurs très compliqués, mais je me rappelle le jour où j'ai eu la révélation, entre guillemets, hein, la révélation du béaba. Et c'était une dictée que je faisais, c'était sur la science. Et à un moment, j'ai écrit, comme ça je cherchais, j'ai écrit le mot béaba. Mais pas du tout parce que c'était une difficulté, parce que j'avais besoin dans le sens même de la dictée, de ce que j'écrivais, il fallait que j'emploie le mot béaba. Et puis je l'ai écrit, puis je me suis dit, mais après, comment ça s'écrit béaba? Je regarde et j'ai été stupéfait. J'ai dit, mais c'est un mot, au fond, que tout le monde emploie, mais que personne n'écrit jamais. Et c'est un mot qui est une chose trappe, alors abominable, parce que ça s'écrit B. B point, A point, trait d'union, ba, béa. À mon avis, c'est le seul mot de la langue française composé de trois éléments qui comporte un seul tiret. Un seul tiret.
Ah, oui.
C'est le seul, je n'en connais pas. Alors, parce que les gens, ils écrivent ou B point, tiret A point, tiret bas, ou bien ils n'en mettent pas.
Ouais,
mais en mettre un seul, je me suis dit, mais c'est un piège effrayant.
Moi, j'en aurais mis deux.
Donc, c'est un piège effrayant. Et donc, j'ai mis dans la dictée, et évidemment, j'ai eu un plaisir assez sadique, je le concède aujourd'hui, de voir que 70% des finalistes avaient chuté sur le béaba.
Ah, 30% quand même réussi, c'est pas mal.
Ouais, attendez, c'est des cracks en finale.
Ouais,
hein.
Ouais.
C'est des
Est-ce
champions.
Est-ce que vous êtes baba, vous, des champions?
Ah, bah oui.
Béaba.
Ah, oui, complètement.
Oui.
Parce que moi, j'en suis pas. Si vous me donnez comme ça à l'impromptu une dictée que j'ai écrite moi-même, il y a deux ans, je vais faire des fautes,
bon.
Mais bien entendu.
Oui. Ah, quel bonheur.
Parce que j'ai oublié, les astuces, et donc je me prends train les pieds dans mes propres chausse-trappes. Non, là, c'est...
Est-ce que ça vous amuserait, au fond, d'être académicien et de...
Mais je suis académicien Goncourt.
Non, académicien français, je veux dire, ici, dans cette baraque.
Alors, écoutez, c'est une bonne question. Je me doutais bien que vous alliez quand même me la poser. Alors, après, quand j'ai fini mes émissions, bon, j'ai des amis à l'Académie française. Et pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et qui m'ont demandé, pourquoi tu ne viendrais pas nous rejoindre? Et j'aurais dit, très franchement, que ce n'était pas ma place. Je ne me voyais pas dans cet emploi de faire des discours, de revêtir un habit vert.
Avec une épée.
Avec une épée, que je ne me voyais pas bien là-dedans, prononcer l'éloge de quelqu'un auquel j'aurais succédé. J'aurais dit que franchement, et j'aurais dit, mais il y a une chose qui me plairait beaucoup à l'Académie, ce sont les séances du dictionnaire.
Ben voilà.
Ça me plairait beaucoup, beaucoup. Mais tout ce qu'il y a autour, non. Et j'avais répondu à une interview dans le Nouvel Observateur de l'époque. Alors, c'est la dernière question. Alors, l'Académie française, j'expliquais les raisons pour lesquelles je ne désirais pas entrer à l'Académie française, quoique...
Oh, c'est des conditions pas terribles, finalement.
Quoique j'ai eu quelques amis.
Oui.
Et j'ai aussi des ennemis. Et puis, j'ai dit, mais une académie qui me plairait bien, c'est l'Académie Goncourt. Parce qu'on y fait trois choses que j'aime bien et que je sais à peu près faire, c'est lire, boire et manger.
Ah, c'est comme ça que vous êtes entré à Goncourt.
Alors, évidemment, les académiciens Goncourt ont vu que, effectivement, et en plus de ça, à l'Académie française, on ne mange pas, on ne boit pas, d'après ce qu'on me l'a dit, très mal.
Oh.
Non, très mal. Non, c'est que là, chez Drouan, c'est là, un repas magnifique.
Même le pauvre Bernard Franck.
Oui. Ah, il était, vous n'avez pas parti à l'Académie Goncourt.
Ah oui, c'est vrai.
Pas du tout.
Oui,
mais il n'avait pas besoin de l'Académie Goncourt pour bien boire et bien manger.
Oui. Il est bien mort, finalement,
Si j'ai un regret de ne pas être à l'Académie française, c'est pour les séances du dictionnaire. Ça m'aurait beaucoup intéressé, amusé et passionné, même. Mais en dehors de ça, non. Et je me trouve bien à l'Académie Goncourt de continuer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire lire des romans, lire des livres, et puis se retrouver à 10 autour d'une table et bien boire et bien manger.
Oui, mais vous défendez deux choses absolument en voie de perdition, paraît-il. C'est la langue française et les livres. Est-ce en voie de perdition,
à votre avis? Non. Mais ce sont des, c'est même pas des, on va même pas dire que ce sont des monuments en péril, faut pas non plus tomber. Mais qu'il y ait effectivement des atteintes à la langue française, qu'il y ait, qu'on puisse avoir des craintes pour la lecture dans les années qui viennent, oui, bien sûr, mais ne tombons pas quand même dans des...
Non, mais par exemple, vous-même, vous avez été victime, vous l'avez dit, je crois, récemment, de cette espèce d'idée qu'on ne peut pas faire de l'esprit avec des choses sacrées, puisque vous avez cette phrase merveilleuse, moi je trouve merveilleuse, quand vous dites de l'islam que c'est une religion du petit-déjeuner.
Ah oui,
Ce qui vous a valu bien des problèmes. Pourquoi c'est une religion du petit-déjeuner?
La religion du petit-déjeuner, c'est vraiment parce que c'est une religion qui préconise de boire l'eau, le lait, de manger du miel, donc ce sont des choses qu'on boit au petit déjeuner, et donc pas le vin. C'est pour ça, je me demandais, je parle évidemment des relations, des religions dans ce livre, des religions avec le vin, et donc cette formule est venue, l'islam, une religion du petit déjeuner. Il y a des amis qui m'ont dit, mais t'es fou, mais ça va pas, mais pourquoi, mais tu te rends pas compte de ce que tu écris? Je dis, c'est pas une insulte de dire de l'islam, c'est l'islam du petit déjeuner.
C'est merveilleux, je trouve.
J'ai pas dit que c'est une religion du lupanard ou du dîner, je ne sais trop quoi. J'ai pas dit ça, j'ai dit, oui, c'est une religion du petit déjeuner. Incroyable, il y a maintenant une crainte, le moindre peu d'humour vis-à-vis des religions est ressenti comme une agression effrayante.
Mais justement, vous parlez de Pitt, j'ai vu dans votre livre que nous avons reçu il y a pas longtemps, et Jean-Robert Pitt fait la chronique gastronomique du monde des religions, vous le savez sans doute, et parle de ce lien, surtout du vin d'ailleurs, il parle beaucoup du vin en tant que géographe, mais enfin en tant qu'homme aussi.
C'est un grand spécialiste.
Un grand spécialiste de la géographie du vin, et vous-même, à plusieurs reprises quand même, on sent que toute cette histoire, vous l'avez dit vous-même, le terroir, il est quand même français pour vous, parce que vous connaissez le terroir français. À un autre moment, vous parlez de Romanée Conti, il y a la croix au-dessus, la grande croix au-dessus du Romanée Conti. Donc, le vin n'est pas neutre.
Ah ben non,
il
est tout sauf neutre.
Oui, voilà, donc que vous parlez du pain et du vin.
Non mais attendez, le vin est totalement lié à la religion chrétienne, hein, et complètement.
Pas mal.
Lisez les évangiles, il y a les métaphores du Christ sur la vigne, sur le vin, sans compter les noces de Cana, et puis à la fin quand même la scène, ce repas quand même extraordinaire du jeudi saint, où d'un seul coup il transforme le pain et le vin en sa chair et son sang. Toute notre civilisation judéo-chrétienne repose quand même même sur le pain et le vin, cette association.
Surtout qu'Israël est la vigne du Seigneur aussi.
Et vigne du Seigneur, enfin bref. Oui. Mais dans la Bible, les références au vin sont innombrables. Oui. Donc non, c'est pas neutre le vin.
Mais alors vous faites une apologie de l'eau parce que vous dites qu'aujourd'hui, enfin un éloge de l'eau, parce que vous dites qu'aujourd'hui, finalement, si Jésus revenait sur Terre, peut-être que les noces de Cana,
ben oui.
il changerait le vin en eau.
Ben oui, tout simplement, c'est parce qu'aujourd'hui, oui. l'eau va devenir rare. Et il y a surabondance du vin dans le monde, puisque maintenant on se trouve avec des stocks de vin considérables, et en France, il y a d'ailleurs une crise viticole en France, où il y a des stocks qui s'accumulent et qu'il faut des vins qui sont bons, souvent, qu'on doit transformer en alcool, c'est catastrophique. Donc, si ça continue comme ça, et comme il y a beaucoup de pays qui plantent aujourd'hui des vignobles, parce que à plus de ça, avec le réchauffement de la planète, et que l'eau devient rare, ou devient très mauvaise, parce que à cause de la pollution des nappes phréatiques, vous dites qu'un jour, dans 50 ans, je me suis dit, au fond, si Jésus revenait, oui, ben, noce de Cana, on lui dirait, Seigneur, nous n'avons plus d'eau, nous avons beaucoup de vin, nous n'avons plus d'eau, et transformerait le vin en eau.
Mais ça serait le paradis pour vous, au fond, un monde où il n'y a plus d'eau.
Non. Ah non, pas du tout.
Non.
Ah non, pas du tout.
Oui, non, vous aimez l'eau, d'ailleurs, vous le dites à un moment donné. Oui, oui.
Mais d'ailleurs,
vous savez qu'il y a des bars à eau.
D'ailleurs, j'ai un verre d'eau devant moi, maman.
Vrai. Mais il y a des bars à eau, vous savez que maintenant, il y a des bars à eau, très snob.
Oui, les bars à eau, franchement, c'est plutôt pour les chiens, moi, je trouve.
Mais vous n'iriez pas jusqu'à écrire le dictionnaire amoureux de l'eau.
Certainement pas. Mais je bois de l'eau, je trouve que les vieilles querelles d'autrefois où on méprisait l'eau si on aimait le vin et on n'était pas considéré comme un bon buveur de vin si on était pris à boire de l'eau, c'était ridicule.
Il y a aussi, au chapitre ivresse, vous dites que vous n'êtes pas tellement pour les ivrognes. Vous ne trouvez pas ça si sympathique que la légende?
Non, il y a quelques ivrognes effectivement gais, joyeux, qui m'ont fait rire. Mais la plupart des ivrognes, moi, me mettent mal à l'aise parce que je n'aime pas voir un homme qui a perdu le contrôle de son corps et de son esprit. J'aime pas non plus voir une femme saoule, c'est un des spectacles qui me déplaisent totalement, et donc franchement je suis pas du tout un laudateur de l'ivresse, même si je reconnais que l'ivresse a inspiré à des écrivains et à des poètes, et notamment à Baudelaire, des textes magnifiques, et notamment au poète persan aussi.
Ah oui, ça vous en parlez, là vous avez un très beau chapitre sur le poète persan.
Abou Nouvas, qui est un grand poète, et puis évidemment Omar Khayyam, qui ont écrit des quatrains somptueux sur le vin, sur l'amour du vin, et ils prenaient bien des risques. Aujourd'hui, ils ne pourraient pas d'ailleurs les écrire. Et puis, ils font l'éloge de l'ivresse. Bon, mais ils font ça très bien. Et je reconnais aussi que beaucoup d'écrivains, notamment des poètes considérés comme mineurs, ont écrit des poèmes magnifiques sur le dérèglement des sens à partir de l'alcool. Bon, mais moi, c'est pas mon affaire. Je préfère goûter des vins en toute connaissance de cause avec mon esprit vaillant et mon corps d'aplomb.
Et quel est l'un des plus beaux poèmes sur les vins que vous connaissiez? Est-ce que vous en connaissez par cœur?
Non, parce que je n'ai pas de mémoire.
Alors,
les poèmes de Baudelaire, les poèmes de Baudelaire,
il y a Baudelaire, non, il n'y a pas Baudelaire.
Si. J'ai pas fait d'entrée non plus sur Colette. Je trouve que Colette a parlé
d'une manière magnifique.
Mais elle a jamais écrit un livre sur le vin.
D'ailleurs, vous succédez à Colette, je crois, au Goncourt.
Oui, à l'Académie Goncourt. Oui. Ah, ça me met grand regret parce que j'utilise le couteau, la fourchette, la cuillère.
Ah bon?
Ben oui, il y a son nom.
Ah, je savais pas qu'on héritait des couverts.
Ah oui. À l'Académie française, on hérite d'un siège. À l'Académie Goncourt, on hérite d'un couvert. Et donc, j'ai le nom sur les couverts de tous mes prédécesseurs. Ça commence par les deux Daudet, et puis il y a Giono et Colette sur mon couvert.
Ah donc, vous posez vos lèvres sur la fourchette ou la posée célèbre?
Ah oui, bien sûr.
Oh là là. Et le verre?
Non, pas le verre. Non,
il est cassé.
C'est les couverts à poisson, la fourchette, la cuillère et le couteau.
Ah,
formidable. Ah oui, non, ça c'est bien, c'est très précieux.
C'est très émouvant.
Et chaque fois que j'arrive pour un déjeuner, je regarde et je vois le nom de Giono, notamment le nom de Colette, et ça m'émeut chaque fois. Et mon grand regret, Colette et Giono, que je cite d'ailleurs plusieurs fois dans le livre, mais Colette, pour moi, c'est elle qui parle le mieux du vin. Pour moi, elle n'a pas d'égal. C'est extraordinaire. Elle parle du vin de Saint-Tropez, elle parle du Jurançon, elle parle du Brouilly, elle parle des vins de son enfance. Mais c'est magnifique. Vous voulez pas que je lise un extrait de Colette?
Si, bien sûr.
Je vais vous le retrouver.
Le temps que vous le retrouviez, nous interrompons 2 minutes. Nous sommes avec Bernard Pivot qui va nous lire Colette.
« Pierre Cardin a révolutionné le monde de la mode et de la haute couture jusqu'au mobilier et à l'art contemporain. Et l'artiste est venu dans nos studios pour se raconter comme créateur, comme mécène, de sa jeunesse à son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour le clin d'œil, il raconte même qu'il a conçu les habits verts de plusieurs de ses confrères académiciens. Pierre Cardin, artiste, Pierre Cardin, mécène, et en outre, plusieurs interviews des lauréats des prix Pierre Cardin. Nous vous proposons en tout 3 émissions sur l'homme qui a fait entrer la haute couture à l'Académie des Beaux-Arts.
Alors je vais vous lire un texte de Colette que vous trouverez au chapitre « Rivalité des vignobles ». Parce qu'elle, Colette, quoi je lui ressemble, très modestement, c'est qu'elle aimait les vins, elle n'avait pas d'intolérance, elle était au contraire ouverte à tous les plaisirs, à toutes les gourmandises. Alors, bienheureuse Colette, à qui ses parents communiquèrent dès sa jeunesse le goût des très bons vins, et pas seulement ceux de Bourgogne, puisqu'elle vivait dans la Puisaye, dans la Bourgogne, des forêts et des étangs. Elle n'avait pas plus de 3 ans lorsque son père lui donna à boire, citation, coup de soleil, choc voluptueux, illumination des papilles novices, du muscat de Frontignan. La suite n'est pas moins délectable, quoique les éducateurs d'aujourd'hui jugeraient criminel un apprentissage aussi précoce des vins, même absorbé à gorgée, espacé, réfléchi. Et voilà comment la citation de Colette. J'envie, quand j'y pense, la gamine privilégiée que je fus, pour accompagner au retour de l'école mes encas modestes, côtelettes, cuisses de poulet froid, ou l'un de ces fromages durs passés sous la cendre de bois et qu'on rompt en éclats comme une vitre d'un coup de poing. J'eus des châteaux Larose, des châteaux Lafitte, des Chambertins, des Cortons qui avaient échappé en 70 aux Prussiens. Certains vins défaillaient, pâlis et parfumés encore comme la rose morte. Ils reposaient sur une lie de tanin qui teignait la bouteille, mais la plupart gardaient leur ardeur distinguée, leur vertu roborative. Le bon temps. J'ai tari le plus fin de la cave paternelle à godet délicatement. Ma mère rebouchait la bouteille entamée et contemplait sur mes joues la gloire des crus français. C'est pas beau, ça?
C'est sublime.
C'est magnifique, c'est tiré de la treille muscate.
Oui, oui.
C'est de la treille, c'est magnifique,
oui,
non?
Oui, c'est magnifique.
Qui a parlé des vins de cette manière aussi sublime?
Mais là, le style de Colette est une chose extraordinaire.
Particulièrement bien adapté au vin. Et parfois, je me disais en écrivant ce livre, comme j'aimerais avoir le talent de Colette.
Ah, mais c'est un livre talentueux autrement.
Oui, mais enfin bon.
Oui, mais Colette est indépassable.
Je sais faire la différence, hein.
Oui, vous le dites souvent d'ailleurs, ça vous le dites souvent, et c'est aussi une des choses que vous avez toujours refusé de confondre, c'est-à-dire le fait d'interviewer les écrivains, d'en être un vous-même. Comme dans le vin d'ailleurs, vous avez un art de mettre les choses à leur place,
oui,
qui est assez rare, qui est très très rare,
bah, écoutez,
surtout à la télévision.
Depuis de mes qualités, je me suis jamais pris pour celui que je n'étais pas, c'est pas parce que j'ai fréquenté les écrivains pendant 28 ans, qu'il fallait que je me prenne pour l'un des leurs. C'était quand même difficile.
Récemment, j'ai écouté une émission, je crois que c'était avec Catherine Sellac, pour rendre à César ce qui est à César, où vous dites que vous parlez du pouvoir de la télévision en disant qu'il vous a quelquefois gêné et que quelquefois, c'est vrai, vous intronisiez les écrivains.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y avait des écrivains, s'ils ne passaient pas chez Pivot...
Au plus fort d'apostrophe, effectivement, il y avait cette apostrophe, au fond, délivrait un brevet d'écrivain. Si vous étiez passé apostrophe, alors vous étiez considéré comme un écrivain. Par la critique, bien entendu, je veux dire, par les parents, par les amis, par les fournisseurs, par le quartier, par les gens qui connaissaient l'écrivain. Si vous n'y passiez pas, on disait, il doit pas être finalement très bon écrivain, puisque Pivot ne l'invite jamais. Voilà.
C'était pas la cuvée Pivot.
Ça me gênait un peu, ça me gênait un petit peu quand même de savoir ça, parce que, évidemment, l'émission n'était pas faite pour décerner des brevets d'écrivains.
Est-ce qu'ensuite vous avez connu des écrivains où vous avez regretté, vous vous êtes dit, tiens, c'est dommage?
Oui, bien sûr. Oui, mais j'ai fait des ratages. Oui, bien sûr.
Je le dis,
par exemple, j'ai raté Georges Perros, par exemple, que j'aurais dû inviter, je l'ai pas fait. J'ai raté Romain Gary, que j'ai invité une fois dans une émission, mais j'aurais dû faire un tête-à-tête avec Romain Gary.
Oui.
C'est évident, j'aurais dû le faire. Et il serait aujourd'hui dans la collection, d'ailleurs, des DVD des grands écrivains d'apostrophe. J'ai eu tort de pas l'inviter. Donc bien sûr que j'ai eu, il y a des...
De quel étiez-vous le plus fier, au fond, d'avoir rencontré ou d'avoir bien, bien saisi lequel?
Je suis plus fier, c'est d'abord les quatre émissions avec Solzhenitsyn, parce que je crois que c'est irremplaçable.
Oui. C'était un document même.
Oui, enfin les quatre documents, parce que c'est quatre fois une heure et quart, donc c'est beaucoup. Oui. L'émission dont je suis peut-être le plus fier littéralement, c'est celle avec Nabokov, puisque c'est le seul document que nous ayons sur lui, et c'est quand même, à mes yeux, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et puis il y a des émissions comme ça, un peu risquées, pour lesquels je vais risquer pour des raisons différentes avec Duras, parce que c'était en direct que je connaissais pas Duras et que je savais que c'était difficile de l'interviewer.
Décidément, les femmes avec vous, Yourcenar, vous la connaissiez pas, Duras, vous la connaissiez pas.
Mais je connaissais pas non plus Georges Dumézil et c'était risqué pour moi de d'aller interviewer un auteur quand même qui fait pas partie de la littérature au sens strict du terme. C'est un savant, c'est un linguiste,
un chercheur.
Un chercheur, donc c'était difficile pour moi de ou Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, passer une heure avec Lévi-Strauss. Évidemment, c'est un homme...
Il parlait aisément, quand même, Lévi-Strauss.
Oui, mais peut-être moi qui parlais plus aisément devant lui. Donc, effectivement, ce sont des souvenirs dont je suis fier, parce que je suis arrivé à surmonter des obstacles qui, devant moi, se dressaient et dont j'étais très conscient.
Qu'est-ce que vous regrettez le plus, si vous regrettez quelque chose de ces années-là? Enfin, est-ce que vous n'avez pas une certaine nostalgie, voilà, de quelque chose de ces années-là? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez tout à fait votre...
Non, je vous dis, j'ai fait des ratages, donc je peux avoir... mais on ne peut pas avoir la
nostalgie. Non, je veux dire de la nostalgie en se disant, tiens, ça serait bien de revivre un peu cela, ou de...
Oh non.
Dans les rencontres de double jeu, dont vous parlez peu d'ailleurs, parce que c'était de très belles rencontres.
Ah ben, j'ai fait des rencontres extraordinaires.
Oui, il y a eu des rencontres,
mais là, il n'y a pas que des écrivains, là, il y avait des tas de gens. Extraordinaire. Je me rappelle le chèque Mamadou Diarra, le Malien qui est devenu un ingénieur à la NASA. Pour moi, ça a été une rencontre extraordinaire. Mais il y a eu plein de gens qui vraiment des personnages dont j'étais très éloigné, soit parce qu'ils étaient chefs d'orchestre, architectes, philosophes. Je sais pas, professeur de français à l'étranger. Enfin bref, j'ai rencontré des gens merveilleux. Oui, c'est une émission que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, que j'ai arrêté au bout de 4 ans. Peut-être j'ai eu tort. Peut-être tu me reproches aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais quelle erreur tu as fait.
Oui, parce que c'est une vraie découverte sur un miroir de, voyez la France en miroir, en fait.
Absolument.
Et c'était donc très rare comme mission, oui.
Puis surtout, c'est de rencontrer des gens pour lesquels j'ai une grande admiration spontanément, parce que ce sont des gens qui ont ajouté la langue et la culture française à leur langue et leur culture étrangère pour des raisons soit heureuses, soit malheureuses. Et donc j'ai grande admiration pour eux parce que c'est une chose que moi j'aurais jamais pu faire, j'aurais jamais su faire. Et c'était une manière de rendre hommage donc à des gens et notamment à ceux qui ont apporté à la culture française une sensibilité différente puisqu'elle venait de l'étranger.
Au fond, quand on vous écoute, vous auriez pu presque écrire le dictionnaire amoureux de la France. À travers les vins, à travers la langue, les gens.
Oui, c'est vrai que j'aurais pu écrire, peut-être, oui. Mais d'ailleurs, il est en train d'être écrit.
Ah bon?
Oui,
sûrement dans cette collection, on l'a prévu. Oui.
Je suis pas autorisé à vous dire qui l'écrit, mais je sais qu'il est en train d'être écrit par quelqu'un qui, effectivement, aime beaucoup la France.
Oui, mais ça aurait pu être.
Mais j'aurais pu le faire aussi, effectivement.
Alors, comme dernière question, Bernard Pivot, je vais pas me permettre de vous poser la question si Dieu, etc. Si par erreur de casting, c'est le diable qui vous recevait, que lui diriez-vous de vous mettre à vieillir en cave pour la réapparition sous la forme d'un sceptre?
Alors la question c'est, si le diable existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Voilà, exactement.
Alors, j'aimerais qu'il me dise... comme je suis désolé de ne pas avoir eu la priorité de vous retenir.
Bien, avis au diable. C'était donc l'émission avec Bernard Pivot, que vous pouvez retrouver aussi dans notre médiathèque. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et merci Bernard Pivot.
Merci beaucoup.